France Inter. Pierre Veille. Le téléphone sonne.
C'est au programme du gouvernement. Jean Castex l'a annoncé hier lors de son discours de politique générale. Il souhaite réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation des produits polluants. Faut-il une régulation plus stricte de la publicité pour l'adapter aux enjeux climatiques? C'est notre thème ce soir. Vendredi dernier, Mathieu Orphelin, président du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi visant à verdir la publicité, un texte qui reprend sur ce sujet les principales idées de la Convention citoyenne pour le climat. Il prévoit d'interdire les nouveaux écrans vidéo publicitaires, ceux existants devant être retirés. Il exige de restreindre sur 7 ans la publicité pour les véhicules particuliers les plus polluants. Le texte propose aussi d'apposer sur toute publicité une mention « En avez-vous vraiment besoin ?» histoire de lutter contre la surconsommation. Alors sur tout cela, on attend vos questions, vos remarques. Le téléphone sonne, c'est votre émission. N'hésitez pas, franceinter.fr, l'application France Inter et bien sûr, le standard.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour vous répondre ce soir dans ce studio à mes côtés, Hubert Julien Laferrière, qui est député écologie, démocratie et solidarité du Rhône et co-signataire de la proposition de loi dont je viens de parler pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Martin est avec nous. Il est directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis bienvenue à Mathieu Janic. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, consultant en communication et publicité responsable. Tout de suite au standard, Patrice dans la Meuse veut intervenir pour faire un commentaire ou poser une question. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Allez-y.
Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la publicité. Alors, je vais reprendre un cas particulier.
Mmh.
Je voudrais revoir celui des grands panneaux publicitaires dans les villes. On nous a promis pendant des années de mettre fin à ces horreurs. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit toujours ces grands panneaux. Et en plus, on a des grands panneaux numériques qui, par ailleurs, peuvent être dangereux parce qu'ils attirent l'attention des automobilistes. Et je crois que la publicité, vraiment, c'est le symbole même du capitalisme à tout va, de l'agression à l'environnement. Et vous avez fait de nombreuses émissions sur l'après-Covid avec un certain souci par rapport à l'environnement, un certain regard humain. Je crois que je n'y crois pas du tout parce que les requins que sont les lobbies sont là pour reprendre le dessus. Ils ont bien plus l'accès aux médias qui vivent de la pub que les opposants à la pub, à outrance. Et contrairement à ce que les partisans de la publicité nous disent, le citoyen n'est pas entièrement libre de ses choix. L'ouvrage Le Crâne fait son effet, preuve les millions dépensés pour la publicité.
Merci Patrice sur ce commentaire de Patrice qui souhaiterait la disparition de ces grands panneaux publicitaires. Hubert, Julien Laferrière, député.
Patrice, je crois que la préoccupation de Patrice est partagée par beaucoup de Français. Et en tout cas, beaucoup de ceux qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Nous, ce que nous proposons dans cette proposition de loi, c'est déjà d'interdire les panneaux vidéo, mais je crois qu'il ne parlait pas que de cela. Et ensuite, effectivement, de réguler. Il faut à la fois des mesures d'interdiction, de régulation et d'accompagnement. Mais effectivement, il y a les lobbies qui sont là. Donc déjà, redonner des prérogatives aux maires.
Moi, je discutais récemment. Ça fait partie des pouvoirs des maires d'interdire ces panneaux publicitaires.
Pas suffisamment. Je sais par exemple qu'Éric Piolle, maire de Grenoble, qui a été un peu un précurseur en 2014, lorsqu'il a interdit, qu'il a voulu limiter fortement les panneaux publicitaires. Et aujourd'hui, je crois que dans la ville de Grenoble, près de 98% de l'espace public, il n'y a plus de panneaux publicitaires. En fait, il y en a encore dans les zones commerciales. Il a eu, je sais, des difficultés. Il a dû se battre, mais il y a 350 panneaux publicitaires qui ont disparu. Donc, c'est possible si on redonne des prérogatives aux maires. C'est déjà la première chose que l'on souhaite dans cette proposition de loi. Et puis, évidemment, interdire les panneaux vidéo, parce qu'on sait que c'est une calamité à la fois en termes de d'émissions de gaz à effet de serre, mais en termes de santé également. Et puis ensuite, ce sont les supports, il y a les contenus.
Les panneaux vidéo sont dangereux et émettent
à la fois,
de la pollution. On a beaucoup de questions à ce propos.
Ça, parce que ça utilise beaucoup d'électricité, donc ça fait de la pollution. Et puis on sait que pour la santé, en particulier les jeunes, c'est voilà. Et puis visuellement, c'est quand même pas ce qu'on veut pour demain, pour notre ville, quoi. Voilà. Et je crois que c'est très intrusif en réalité.
Sur tous ces points, Stéphane Martin, directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Oui, alors la profession pourra expliquer évidemment tout ce qui est en cours, mais enfin faut rappeler, vous l'avez rappelé vous-même, que c'est vraiment un pouvoir du maire qui existe déjà depuis très longtemps, qui dans la dernière décennie, il y a déjà eu cinq lois, des décrets, notamment le Grenelle 2, hein, il y a 10 ans, qui a amené à la réduction déjà de la moitié des panneaux de grand format, à la réduction des formats eux-mêmes, de 12 mètres à 8 mètres carrés, donc peut-être c'est pour certains trop grand, des 4 mètres carrés, la régulation, y compris des enseignes, des préenseignes, puisque ça a été, d'ailleurs les députés parfois posent la même question au gouvernement sur la disparition de 1,5 million de préenseignes, vous savez c'était ces petits panneaux en dehors des agglomérations, mais qui indiquaient justement toute l'information nécessaire au commerce local. Donc la tendance, elle est déjà à une restriction. Après, la disparition pose d'autres questions, mais ça, ce sont des questions de nature plus politique. C'est quel chemin, qu'est-ce qu'on veut finalement donner comme média aux annonceurs, quels qu'ils soient et de toute taille, notamment locaux. Est-ce que à terme, ils n'auront que l'accès à des outils restreints pour pouvoir communiquer leurs activités.
Courriel d'Aurélien à Troyes est adressé à Hubert-Julien Laferrière, qui est député du Rhône et qui souhaite donc réguler la publicité, interdire certaines publicités. Il nous demande, pouvez-vous nous décrire précisément les sources de pollution créées par la publicité ?
Alors, les sources de pollution. Si vous voulez, il y a à la fois le sujet du support et le sujet du contenu. C'est-à-dire que, par exemple, les panneaux vidéo, ça fait de la pollution. Parce que ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a la question des contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer, alors qu'il y a un consensus général sur l'idée de protection de nos écosystèmes et évidemment du climat, est-ce qu'on peut continuer effectivement à faire de la publicité pour des produits ou des services très polluants qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc c'est ça le sujet. Donc c'est pour ça qu'on propose d'essayer de résorber cette incompatibilité entre certaines publicités citer les objectifs de transition écologique, à la fois en termes de support et de contenu. Mais on peut aussi donner à la publicité un rôle moteur dans la transition écologique. Je crois que c'est 34 milliards d'euros, en fait, de dépenses publicitaires, et qui peuvent demain contribuer à construire un nouvel imaginaire, en fait, plus propice à la production de notre climat.
Ça réagit sur le site de l'émission, Adeline à Rennes, pas contente. Vous voulez interdire les publicités pour les liaisons aériennes les moins justifiées, mais ce n'est pas à vous d'en juger, chacun a le droit de justifier une envie de voyage où bon lui semble. Hubert, Julien Laferrière.
Il ne s'agit pas d'interdire les voyages, il s'agit juste de dire que si on veut réguler la publicité, si on veut en réguler les contenus, il semble assez cohérent qu'il faille la rendre compatible avec les objectifs de transition écologique. Mmh. Et donc, il faille réguler les publicités pour des produits ou des services qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà, ça interdit pas de voyager. Le fait de limiter la publicité, de l'interdire à terme sur, effectivement, les produits et les services les plus polluants.
Sur tous ces points, Mathieu Janik, chercheur, consultant en communication et publicité.
Oui, je pense qu'il faut garder en tête que la publicité participe à la construction d'une certaine vision de la société. Et s'il est compliqué d'autoriser ou d'interdire la publicité pour certains produits, il faut quand même pointer du doigt que tous les messages, la pression publicitaire à laquelle on est exposé tous les jours en tant que citoyen, promeut une certaine vision de notre monde. Et qu'on pourrait aller vers une vision qui est plus compatible avec une transition écologique. Donc l'aspect sur les contenus, c'est important d'aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui. Et effectivement, pour rejoindre sur le point de Patrice au départ, la conception et la diffusion d'un message publicitaire a des impacts parce qu'on va mobiliser du personnel, des matières, etc. Donc il y a c'est une activité comme une autre qui a des impacts sur le climat. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête et de voir si on peut pas aller vers une sobriété de la publicité, notamment une sobriété numérique pour ce qui concerne les panneaux numériques.
Et en complément de ce premier appel qu'on a entendu de Patrice dans la Meuse, à l'instant, un auditeur nous écrit, est-ce que cette offensive anti-pub, ce n'est pas une forme d'anticapitalisme simpliste ? On veut empêcher les grandes entreprises multinationales de faire connaître leurs produits et donc de gagner de l'argent, Stéphane Martin ?
En fait, ce ne sont pas que les multinationales. Bien sûr, elles existent, mais c'est aussi tout le tissu hein, de chaque entrepreneur qui doit pouvoir accéder à différents types. Mais il faut aussi tordre le cou qu'il ne se serait rien passé, qu'il ne se passerait rien. Je crois que la profession, depuis de nombreuses années, elle a changé elle-même le contenu. La preuve, de toute façon, moi je représente l'autorégulation de la profession qui a une règle, des règles déontologiques sur l'expression des contenus depuis 30 ans. La première règle est sur les arguments écologiques en 90 et a continué et actualisé encore récemment, mettant vraiment l'emphase sur une volonté de promouvoir une consommation raisonnée. Alors c'est là où...
Mais alors, est-ce que vous soutenez cette proposition de loi de Hubert-Julien Laferrière, fini la pub pour des produits polluants ?
Non, puisque soit on arrête les produits... Et dans ces cas-là, il n'y a pas de pub, c'est toujours plus simple. C'est prendre souvent, on le voit dans ce dispositif, on prend le chemin presque à l'envers. On prend un symbole, alors qu'on peut assumer hein, le symbole de la publicité, mais c'est un symbole qui peut coûter cher, dans tous les sens du terme. Cher, pas simplement pour la profession, mais cher tout simplement pour ceux qui émettent les messages. Et puis, ça a été dit tout à l'heure par une auditrice, même pour les récepteurs. Il y a une dimension aussi de trouver un équilibre de liberté de chacun et surtout du récepteur des messages. Avoir des messages qui sont encadrés, il faut rassurer tout le monde, hein, monsieur le député, il y a déjà des normes et nombreuses, oui. Y compris sur les contenus, soit autorégulés ou tout simplement de droit. Donc, et c'est une évolution qui doit se faire un chemin de consensus.
Qu'est-ce que vous appelez l'autorégulation ?
Alors l'autorégulation, c'est, alors en France elle a 85 ans, mais c'est quelque chose qui existe et qui est reconnu d'ailleurs dans les textes français comme européens, c'est la profession... Mais toute une filière, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les messages comme ceux qui les diffusent et surtout ceux qui sont les annonceurs, les marques, depuis 85 ans, fixent des règles au niveau mondial et au niveau national de bonnes pratiques, en fait. Et surtout, d'application de ces règles pour les accompagner avant diffusion et de contrôle après diffusion.
Au standard, tout de suite, on retrouve, et il patiente depuis un bon moment, Dominique en Haute-Corse. Bonsoir Dominique.
Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. La remarque du premier auditeur semble être approuvée par de nombreux Français, mais comment voulez-vous, dans le contexte aussi difficile que nous traversons, ne pas croire en la publicité en boostant un peu la société de consommation ? Alors, faut-il verdir peut-être la publicité pour éviter que certains produits ne polluent l'environnement, en quelque sorte ?
Hubert-Julien Laferrière ?
Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la fois, il faut des mesures de régulation, d'interdiction, mais des mesures progressives, et puis en même temps, des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que on peut pas continuer effectivement à avoir un consensus général sur l'idée de transition, et puis avoir des produits publicitaires parfois agressifs dans nos villes, et en plus dont les contenus vont à l'encontre effectivement de cette transition. Nous, on dit juste ça, et on dit, mais il y a évidemment des mesures d'accompagnement qui doivent être fortes, et puis des mesures de formation, mais qui existent déjà, hein, notamment dans les écoles de marketing et de publicité, qui permettent effectivement de faire évoluer tout ça. Et on voit aujourd'hui qu'il y a plein d'entreprises qui prennent des initiatives, par exemple qui produisent des sacs réutilisables à l'effigie de leur marque, donc ça permet à la fois de faire de la pub et d'éviter effectivement les déchets sacs plastiques. Il y a des entreprises qui organisent des événements justement de sensibilisation à l'environnement qui permet à la fois de communiquer sur leur marque et en même temps de sensibiliser le public à l'environnement. Donc on voit bien que tout ça bouge. Ce qu'on dit simplement, et c'est vrai que depuis 2007 notamment et avec le Grenelle d'environnement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On dit qu'il y a peut-être là une étape de plus à franchir, mais c'est pas qu'une loi de restriction, hein, c'est régulé et accompagné.
Les auditeurs nous écrivent de nombreux courriels avec cette question. Est-ce que c'est juridiquement faisable ? Emma à Saint-Germain-en-Laye, est-ce qu'interdire la publicité de produits dont la vente n'est ni interdite ni fortement découragée par une fiscalité punitive, est-ce que c'est légal juridiquement ? Qui va définir le seuil à partir duquel un produit est déclaré très polluant, dangereux pour la planète ? Et encore ce mail, pourquoi ne pas mettre un score carbone sur ces pubs ou un avertissement, vous allez polluer avec ce produit, comme on le fait pour la pub pour les alcools, à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux. Rien que cela pourrait changer les comportements des consommateurs. Que pensez-vous de toutes ces remarques, Stéphane Martin ?
Mais faut-il penser, est-ce que le consommateur n'est pas déjà informé, mais il a tout à fait raison sur la notion des définitions, y compris dans ce que le Premier ministre a pu dire hier. Hein, il y a quatre mots compliqués à définir, ça va être réduire, incitation, surconsommation, produit polluant. Donc ça fait quatre définitions à trouver qui vont pas être simples, qui peuvent faire appel, bien sûr, aux libertés individuelles et surtout à l'idée même que, en fait, la profession, et là, je rejoins monsieur le député, la profession a largement, elle n'est pas dans une bulle, elle est dans la société. Les salariés eux-mêmes de cette profession, qui sont aussi nombreux, enfin, sont surtout plutôt jeunes et donc sont très alertes et très soumis à vouloir une consommation plus responsable. Et puis, rappelons, nous sommes tous des légalistes. Il y a déjà les accords de Paris, il y a déjà les objectifs de développement durable qui s'imposent à nous. Il y a la feuille de route sur l'économie circulaire. Enfin, il y a déjà, là encore, un corpus déjà existant qui font que les entreprises s'inscrivent, alors soit de manière très volontaire, avec des engagements, mais les autres.
Mais certains auditeurs nous disent, juridiquement, ce n'est pas possible, ce projet d'interdire certaines pubs pour des produits polluants. Sur ce point, Mathieu Janik.
Alors là, sur le côté légal, je ne saurais pas répondre. C'est vrai que ça pose la question de la définition de qu'est-ce qu'à partir de quel moment est-ce qu'on produit est plus impactant qu'un autre et qu'il faudrait l'interdire, d'autant plus que l'usage doit aussi être pris en considération. Je peux avoir une voiture qui émet moins qu'une autre, mais si je l'utilise plus, au final, je vais avoir un impact plus fort. Donc c'est vraiment un sujet qui est complexe. Je rebondis sur cette idée de score impact carbone. Ça me paraît vraiment quelque chose qui est intéressant, puisqu'on le voit se développer sur l'étiquette énergie, sur le Nutri-Score. Un score carbone sur l'ensemble des produits, très visuel, très facile, parce que Monsieur Martin disait que les consommateurs sont déjà informés. Je pense qu'on a des efforts à faire encore sur l'information sur l'impact environnemental des produits et notamment sur l'impact climat. Donc ça serait une idée à pousser, je pense.
Hubert Julien Laferrière, je rappelle, hein, député écologie, démocratie et solidarité, député du Rhône. Vous êtes certain que si cette proposition de loi était adoptée, elle ne serait pas retoquée par le Conseil constitutionnel ?
On a eu des conseils juridiques et encore une fois la concertation continue parce que même si elle a été déposée, on sait qu'on a très peu de chances en fait d'obtenir qu'elle soit inscrite très vite sur l'agenda parlementaire et qu'il faudra vraisemblablement attendre l'année 2021.
Mais vous avez des doutes juridiques donc, vous-même?
Moi-même non parce qu'on a effectivement travaillé avec des juristes et l'idée de par exemple quand on parle de d'interdiction à terme. Par exemple pour les véhicules très polluants, qui est un exemple qui est souvent cité, avec des mesures d'accompagnement, on est sur 7 ans, parce que de toute façon la transition va se faire dans le secteur automobile. Oui, donc c'est à la fois une contrainte, mais c'est à la fois un travail qui va se faire avec les entreprises, avec le secteur automobile. C'est un exemple parmi d'autres.
À Dieppe, avec nous, Françoise. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Merci d'écouter France Inter et d'être avec nous en direct.
Oui, merci de recevoir ma question. Voilà, je me disais que les firmes qui placardent des encarts publicitaires dans nos villes, elles payent pour ça. Qui reçoit cet argent? Je me dis que c'est au niveau municipal que ça se passe. Et recevoir de l'argent, est-ce que ça veut dire aussi que la municipalité a la possibilité de choisir telle publicité plutôt que telle autre? À qui profitent ces panneaux publicitaires au niveau financier?
Stéphane Martin, directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, vous répond.
Oui, alors l'affichage, il bénéficie, alors faut toujours rappeler quand même à l'entreprise qui communique, hein, elle le fait pas pour rien, donc ça sert aussi à ses emplois, à son activité. Ensuite, l'argent va via la société d'affichage, va par des taxes locales, bien sûr, aux collectivités locales, et va aussi là où les panneaux sont implantés, c'est-à-dire soit des bailleurs privés, soit aussi aux collectivités lors des concessions publiques. Donc l'argent, oui, circule bien, il va retourner souvent dans les caisses de la communauté au sens large, soit parce que ce sont des conventions publiques ou des conventions de transport en commun, par exemple, ou chez des bailleurs privés, alors ça peut être des syndics d'immeubles, etc., ou voire quelques particuliers, dont c'est souvent une partie des revenus qui permet souvent de payer une taxe foncière, par exemple.
Verdir la publicité, interdire certaines publicités, les auditeurs sont nombreux à nous demander, mais comment ça se passe à l'étranger? Est-ce que de telles lois ont été votées dans des pays ailleurs en Europe? Hubert Julien Laferrière.
Alors, je n'ai pas la réponse précise à cette question, mais je sais par exemple que l'exemple grenoblois, qui était un peu précurseur en 2014, a inspiré pas mal de villes, notamment aux États-Unis. Après, qu'est-ce qu'elles ont pris comme mesures précises, je pourrais pas vous le dire, mais je sais que ça a fait école et que certaines villes américaines se sont inspirées de l'exemple grenoblois, par exemple.
Julien nous a écrit « Faut-il interdire la publicité lumineuse la nuit ?» Et si oui, pourquoi ? Mais alors, nos rues seront tristes, vraiment sinistres. Hubert, Julien Laferrière.
Si Julien parle des écrans vidéo, je suis pas sûr forcément que moins d'écrans vidéo publicitaires rendent la ville plus triste. Mmh. Et on a des moyens aujourd'hui, et puis à Lyon, je suis assez bien placé, puisqu'on l'appelle la ville lumière, de rendre la ville agréable, y compris le soir, en émettant peu de gaz à effet de serre, parce qu'aujourd'hui, on a la technologie pour éclairer les villes en émettant moins de gaz à effet de serre qu'auparavant. Je suis pas sûr que ce soit les écrans publicitaires vidéo qui soient facteurs de gaieté pour la ville.
Stéphane Martin.
Mais là, il y a des règles aussi sur l'éclairage qui sont prévues dans les règlements locaux et du fait du décret notamment de 2013. Donc même là, il y a des encadrements pour que ça soit éteint la nuit. Il suffit de visiter chaque ville, peut-être un peu tard, mais de visiter pour voir ça.
Noé, dans le Morbihan, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Je voulais poser une question aux députés. Je veux juste dire que la publicité, c'est quelque chose que j'exècre, qu'elle soit à la radio, à la télé ou dans les magazines. Voilà. Mm-hmm. C'est néfaste. Moi, j'avais une question. Et quand le député parle d'écologie, de publicité écologique, je voulais savoir ce que ça voulait dire, parce que finalement, la publicité, c'est un appel à la consommation, c'est un appel à acheter des trucs de façon abusive, sans savoir pourquoi on achète, sans savoir vraiment ce qu'on achète, alors que l'écologie, je dirais, c'est tout le contraire, c'est la retenue, c'est on connaît les produits, on prend ce qu'on a besoin. Quand vous achetez une voiture tous les 5 ans, alors que quand vous achetez un vélo qui dure longtemps, voilà, quand vous achetez des produits, des produits qui sont peut-être moins nombreux, mais de qualité, et qui, contrairement à des produits qu'on peut trouver partout et qu'on voit dans les publicités à la télévision. Je trouve que publicité et écologie, c'est quelque chose de vraiment antagoniste. Voilà, c'était ma remarque ou ma question. Voilà.
Mais vous dites que la publicité pousse à la consommation, à la surconsommation, mais vous-même, vous dites la pub, c'est néfaste et vous êtes parfaitement capable de résister, de ne pas acheter si vous n'avez pas envie. Vous ne pensez pas que d'autres personnes peuvent agir de la même façon et ne pas se laisser embobiner, prendre par ces pubs? Finalement, c'est de l'information. Après, on en fait ce qu'on veut, Noé.
Oui, vous savez, monsieur, si c'était vraiment le cas, ça ferait une belle lurette que la publicité n'existerait plus. Ouais. Si la publicité n'avait pas de pouvoir attractif, on n'aurait plus de panneaux publicitaires, on n'aurait plus d'écrans lumineux qui remplacent dans les gares les là où il y a les horaires de train, on n'aurait plus ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez lu Beck BD, mais dans ses bouquins, il dit bien que la publicité, c'est c'est un poison. C'est en plus socialement, ça montre que les catégories les plus pauvres en souffrent vraiment. Mmh. Ou par exemple Annie Ernaux, quand dans Les Lumières, mon amour, elle le dit aussi. Donc je sais pas s'il y a un représentant de la pub, mais je trouve que c'est malhonnête de mentir aux gens. Par exemple, juste si j'ai le temps de le dire,
allez-y.
À la télévision, quand ils font des pubs sur des produits, des sucreries, des bonbons, dessous il y a marqué à consommer avec modération les confiseries, manger 3 fruits et légumes par jour. Voilà, j'ai oublié de dire, mais c'est quand même un peu
Noé, du foutage de gueule. On va répondre à votre témoignage et à vos remarques. Stéphane Martin, représentant de la publicité.
Oui, là, bah, c'est ça la liberté d'opinion, justement. Oui. On la connaît, hein, évidemment, ces opinions. Elles sont peut-être plus spécifiques en France, puisque on a parlé de l'international. Hein. Il faut quand même rappeler que c'est nous, en France, qui avons un ensemble de corpus et de doctrines les plus développées, hein, sur l'ensemble de ces sujets. Les doctrines, notamment sur le contenu des messages, justement, être sur certains sujets excessifs. Après, c'est la liberté de chacun de penser, mais il faut, je pense, arrêter et tendre le coup à cette idée du consommateur manipulé, qui parfois a pu prospérer, mais qui n'est pas une réalité, puisque, en fait, finalement, on a le choix, et le jeune homme l'a montré, il a le choix de prendre. Mais c'est une information, et a fortiori, il l'a très bien dit, peut-être pour les ménages les moins aisés. Je crois que justement, d'avoir accès à une information et parfois sur des promotions, ben, ça les aide aussi à pouvoir consommer.
Hubert Julien Laferrière, député du Rhône.
On a le choix, mais comme le disait Noé, effectivement, la publicité, c'est le fait d'exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de régulation. Mmh. Et je crois que c'est... certains de nos concitoyens voudraient interdire, d'autres disent il faut réguler. Nous, on dit il faut au moins la rendre compatible avec les objectifs de transition écologique, parce que on peut pas avoir à la fois toute la société qui se mobilise pour la transition écologique et puis avoir des publicités pour des produits et des services qui polluent fortement. Voilà, donc après il y a des curseurs à mettre, effectivement, à trouver en concertation avec tout le monde, mais je crois que Noé pointe quelque chose qui est de plus en plus sensible, en particulier chez les nouvelles générations. Donc il faut à la fois des mesures de régulation et des mesures d'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, c'est sensibilisation. Et on va vers cette transition et la publicité forcément va s'adapter.
Mathieu Janik, chercheur consultant en communication et publicité.
Oui, je pense que les acteurs du secteur de la publicité sont aujourd'hui confrontés à une question, c'est est-ce qu'ils peuvent mettre leur pouvoir d'influence, parce que je pense qu'il y en a un qui est réel, est-ce qu'ils peuvent mettre ce pouvoir-là au service de la transition, et pas simplement à vendre plus de produits qui seraient moins impactants, mais vraiment à changer notre regard sur la consommation, sur le bonheur, parce que la pub nous vend ça aussi, je consomme donc je suis heureux. Est-ce que les acteurs de la publicité peuvent participer à cette transformation-là?
Et le débat sur le site de l'émission, de nombreux courriels, je vous les soumets. Guillaume, quel serait l'impact économique d'un arrêt de la publicité sur l'automobile, par exemple? Et Thomas nous écrit, la consommation consomme des ressources, c'est vrai, mais elle crée aussi des emplois. Quel impact sur l'économie aurait la limitation de la publicité? Hubert Julien Laferrière.
Pour l'exemple de l'automobile, je crois qu'il y a aujourd'hui en France 34 milliards d'euros par an de dépenses de publicité. Le secteur automobile, c'est 4 milliards et demi. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on on dit simplement, on voit bien de toute façon que le secteur automobile a complètement intérêt à s'engager dans la transition vers la voiture électrique. Et donc, dans notre projet de proposition de loi, on propose 7 ans, justement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit tout simplement que la publicité accompagne cette transition. Et il vaut mieux que ça soit prévu dès maintenant, plutôt que dans 7 ans.
Vous, uniquement des pubs pour les voitures électriques.
Petit à petit, il faut que... Je vais me répéter, mais il vaut mieux que la publicité aille dans le sens de la transition écologique que l'inverse. Mmh. Et puis, il y a effectivement l'impact sur les recettes, tout simplement, par exemple, pour les collectivités locales. Souvent, on nous dit, ça je crois que la question a été posée tout à l'heure, c'est des recettes pour les collectivités. En réalité, elles sont pas très importante ces recettes. Hein. C'est le maire Grenoble me disait, c'était 0,1% ou 0,1,5% de son budget communal. Il a remplacé les panneaux publicitaires par des arbres et je crois que tout le monde s'en porte mieux.
Stéphane Martin, sur les conséquences économiques de ces restrictions qui pourraient intervenir dans la publicité, publicité plus verte.
Alors déjà, la publicité l'est, hein. Il faut toujours se refaire un peu d'histoire, la publicité est forcément plus verte parce que les produits et services qui sont commercialisés sont ceux qui sont attendus. Je crois que, là encore, les entreprises ne s'obstinent pas sur des produits qui ne se vendraient pas.
Vous êtes d'accord avec ce que dit Stéphane Martin, Hubert Julien à la Ferrière?
En tout cas, je crois que la publicité, demain, ça peut être un levier. mais, pour la transition.
On ne nie pas justement le pouvoir d'attractivité de la publicité et le pouvoir justement d'accompagner la transition. Elle le fait sur les produits. Après, c'est une question de chemin, c'est une question de rythme, etc. Faut-il une loi justement, alors que les produits eux-mêmes, de toute façon, vont disparaître. Vous savez que de toute façon, il y a des normes européennes. Par exemple, si on prend l'automobile, il y a des normes de toute façon européennes qui font que de toute manière, il y a certains véhicules qui ne pourront plus être commercialisés dans quelques années, puisque les seuils sont sans cesse revus à la baisse.
Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi continuer à faire de la publicité sur les gros véhicules ?
C'était Mathieu Janik.
Parce que pour l'instant, ils existent, mais ce n'est pas la part la plus dominante. Vous regardez tous les médias, vous voyez bien qu'on fait de la communication sur les produits plus innovants qui existent. Ensuite, il peut rester des stocks, notamment. Et puis, là encore, il faut laisser un peu de liberté. Il peut rester quelques consommateurs. Et après, qui peut décider pour eux, pour ces quelques consommateurs ? Après, c'est plus un modèle de société.
Est-ce que quelqu'un on ne décide pas pour les consommateurs.
Oui, mais les consommateurs doivent avoir la même information.
Mais justement, si on regarde les ventes de véhicules en France, ces dernières années, le nombre de véhicules SUV, donc les gros véhicules, est en forte augmentation. Donc, la publicité participe forcément à cette trajectoire-là qui est contraire aux objectifs climat de la France. Et justement, on a la moyenne des émissions des gaz à effet de serre pour les véhicules neufs, elle a augmenté entre 2007 et 2018, alors qu'on est censé baisser d'ici 2021, d'ici deux ans. Donc comment est-ce qu'on va faire ?
Parce que de toute manière, malheureusement, elle va diminuer pour les raisons qui ont été un peu évoquées, notamment de crise économique sévère. Donc ça va diminuer, ne serait-ce parce que le mix, on voit depuis que le marché a réouvert après le déconfinement, c'est un mix beaucoup plus... Alors bien sûr, il y a des aides d'État qui ont aidé évidemment au changement de mix vers les véhicules électriques. Donc oui, la publicité va accompagne cela, mais après sur les SUV, c'est peut-être parce que, alors là encore, il faut enlever le fantasme sur les SUV, on n'est pas sur les SUV à l'américaine, hein. Les SUV à la française sont quand même plus petits et plus légers, mais aussi parce qu'ils répondent à des besoins, à des attentes de famille, de sécurité. C'est toujours le problème quand on pense à d'une loi nationale, la même taille pour tout le monde. À Paris, il n'y a pas de problème en transport en commun dans les grandes métropoles. Après, quand vous êtes une famille, vous avez des enfants, ça devient plus compliqué sous d'autres formes de mobilité.
Donc, si je vous entends bien, là, je cite un courriel qu'on vient de recevoir de Albert. Il nous dit, donc, fini les pubs pour les week-ends ou séjours pas chers à New York, Rome, Marrakech, ou pour acheter un 4x4, ou alors, bien sûr, pour rouler en SUV. Vous confirmez, Hubert, Julien Laferrière?
Finir les pubs n'interdit pas de partir trois jours à New York ou de s'acheter un véhicule polluant. Ouais. On dit juste que la publicité n'a pas forcément à encourager encore davantage des consommations qui vont à l'encontre de ce que la majorité de nos concitoyens souhaitent pour la planète.
Stéphane Martin?
Oui, complétons sur l'impact économique. L'impact économique, il est bien sûr sur les émetteurs, mais il ne faut jamais oublier l'impact économique est sur l'aval. C'est-à-dire sur l'ensemble des supports de communication qui, tout ou partie de leurs recettes, proviennent aussi de la publicité. Donc, il y a aussi cette réflexion globale à avoir d'accompagnement, de transition.
Bien sûr,
parce que si on parle de transition écologique, il y a quand même une vraie transition qui est en cours.
Mais on va d'ailleurs sur certains
Hubert, Julien,
moins
la Ferrière parle. Je mets le sous-titre.
Pardon.
C'est de la radio. Allez-y, monsieur le député,
vrai.
Allez-y.
Non, mais je dis simplement que certains voudraient aller beaucoup plus loin que ce qu'on propose. Nous, on dit, attention, il faut quand même accompagner tout ça et se donner le temps, qu'effectivement que les secteurs économiques s'y adaptent. Parce que derrière, il y a des emplois, vous avez raison.
Éric est à Paris et nous écoute. Bonsoir Éric.
Bonsoir, c'est gentil de prendre mon appel.
Allez-y.
Je suis un fidèle auditeur de France Inter. France Inter est une radio nationale, donc il n'y a pas tellement de pubs, sauf des pubs institutionnelles. Ouais. Nous sommes depuis 25 ans, 30 ans, voire mais encore plus maintenant, inondé, pollué totalement par cette fameuse publicité. Il est clair que, bien évidemment, un certain nombre de télévisions, de radios, de journaux vivent, et c'est clair, par le biais de la publicité, vous le savez parfaitement bien. Quand l'on entend quand même, et la majeure partie, à mon avis quand même, les connais un peu des boîtes de com. Les boîtes de com font de la pub pour qui leur adresse leur projet. Ouais. Ils se foutent royalement du fait qu'il s'agisse d'un produit polluant ou non. Vous avez parlé pour lui d'un produit polluant. Un certain nombre de marques de voitures font énormément de publicité, bien évidemment, et vous le savez parfaitement bien, tant française qu'allemande. Ce qui est troublant, c'est qu'en fait, on vous parle du GPS, mais jamais du moteur, de la puissance du moteur, de ce qu'il est capable de faire, etc. Bon, ben, bref, qu'importe. Et quand
Eric,
on vous parle de pâte dentifrice...
Votre ligne n'est pas très très bonne, il y a des coupures. Est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser à nos invités? On a compris le constat que vous faites. Les boîtes de com s'occupent de faire de la publicité pour toute entreprise qui les sollicite, et quel que soit le degré de pollution. Il y a une question pour compléter cela?
Non, pardon, je suis désolé. Je vous écoute très respectueusement. C'est pas une question que j'ai à poser, c'est juste un constat.
Parfait.
Quand vous avez des boîtes de pâte dentifrice dont on vous dit que c'est scientifiquement approuvé, c'est faux. Donc, et je crois qu'il serait possible éventuellement de limiter, mais il s'agit malheureusement pour un certain nombre de pour la majeure partie, j'ai voyagé pas mal, ouais, et en Inde, et j'ai vu beaucoup de publicité tournant en qu'en Inde, ils ne sont pas à ce point inondés, je crois, de publicité.
Très bien, merci Eric, mais la ligne est vraiment, il y a des coupures, je pense que ça ne va pas tarder à être la fin définitive de cet appel. Stéphane Martin, vous voulez réagir à ce réquisitoire sévère d'Eric à Paris, qui parle aussi de la publicité mensongère, des
choses fausses.
Oui,
je pense qu'il y a peut-être probablement de la pédagogie à faire, hein, y compris, pas simplement dans les écoles, mais de manière générale. Je pense qu'il faut vraiment enlever l'idée que il n'y a pas de règles. Au contraire, c'est bien un secteur qui est plus qu'encadré de normes et de règles, et a fortiori sur les allégations santé, par exemple, hein, dont a été évoqué. Tout ça est particulièrement encadré. Il y a quand même des autorités qui contrôlent. Je parle d'autorités publiques, comme alors en l'occurrence la NSM sur des dispositifs, ouais, médicaux. Donc, je pense qu'il faut s'enlever l'idée. Je pense qu'on a, particulièrement en Europe, parce que c'est vraiment une règle européenne, on est particulièrement protégé en tant que consommateur, ouais, sur les allégations et de manière très générale.
Réaction d'auditeur sur le site de l'émission. Jean-Pierre, pardon, mais là vraiment, les propositions de la Convention citoyenne contre la publicité, c'est de l'écologie punitive. Si j'ai bien lu, ils veulent interdire les pubs pour les soldes, les réductions de prix ou les ventes par lot, c'est excessif. Sur ce point, Hubert, Julien Laferrière.
Oui, non, mais nous, on a effectivement étudié avec attention, évidemment, les propositions.
Donc, pour
de la
vous, il faut interdire,
citoyenne.
Par exemple, les pubs pour les soldes.
Non, ça, je crois pas que ce soit dans notre proposition de loi.
Ouais.
Donc, on ne reprend pas tout. Encore une fois, je crois qu'on affirme des choses fortes en matière à la fois de régulation, d'interdiction, d'accompagnement, pour effectivement arriver à une publicité qui soit davantage orientée vers la transition écologique, si c'est possible.
Oui.
Et je crois qu'il y avait, la question était intéressante, hein, sur les boîtes de com. Moi, je suis plus optimiste que l'auditeur qui a parlé, parce que il y a aujourd'hui c'est pour ça qu'on insiste sur la formation des étudiants, la formation à la fois aux enjeux environnementaux, aux questions de sobriété de la consommation. Mais aujourd'hui, on a quand même une nouvelle génération de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, en particulier dans le marché de la com, de la pub, et qui sont très sensibles à tout ça. Et donc, je pense que ça va beaucoup évoluer dans les années qui vont venir.
Ils ont des enseignements à ce propos. Il y a un enseignement précis dans les écoles de marketing et de
pub. Ça se développe. Hein. Oui. Il y a des agences qui sont engagées. Voilà.
Oui.
Il y a des agences qui sont engagées. Il y a un collectif d'agences engagées. C'est pareil au niveau de l'Union des marques, où il y a tout un programme de communication responsable. L'ADEME a sorti récemment un guide sur la communication responsable. Donc les acteurs de la communication, de la publicité se mobilisent. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut une loi et sur quel produit et jusqu'où aller,
voilà,
pour aider à...
Sans se faire retoquer par le Conseil constitutionnel, voilà, c'est aussi une bonne question.
Voilà.
Mais c'est comme, pardon d'élargir, mais c'est comme aujourd'hui dans des grosses boîtes qui sont encore très polluantes, vous avez aujourd'hui des jeunes cadres qui sont très motivés par faire évoluer la production, oui, de leurs entreprises pour qu'elles soient plus climat compatibles demain.
Dernier appel, Catherine à Saint-Nazaire. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Alors
allez-y.
Moi, je vous écoute en souriant, vraiment, parce que j'ai travaillé pendant des années dans la pub en tant que conceptrice, rédactrice, et j'ai tout arrêté le jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment une histoire d'argent principalement, puisque ce sont des annonceurs qui demandent à des agences et qui les payent bien sûr, hein, qui leur demandent de dire que ce sont des chefs d'entreprise formidables, l'entreprise a plein de valeurs et que le produit est merveilleux. Oui. Et on nous paye bien pour ça, et puis nous on dit amen, et puis on fait les outils, etc. qu'il faut. On va pas creuser du tout, c'est la grande différence avec l'information, qui elle est plus pédagogique et va un peu plus creuser sur la réalité de terrain. Donc moi, j'ai tout arrêté au bout de 12 ans, j'étais écœurée. J'allais faire des reportages pour des grandes enseignes et autres qui disaient qu'elles étaient formidables et qu'elles prenaient des précautions et que leurs produits étaient tip-top. Et quand j'en ai eu marre de rentrer écœurée par la différence de réalité sur le terrain, je me suis dit, mais quelle valeur je suis en train de servir là.
Merci Catherine. L'émission est presque terminée sur ce témoignage, Stéphane Martin.
On peut tout entendre, évidemment, et je suis désolé qu'elle ait eu une mauvaise expérience, hein, mais il y a quand même une réalité de contrôle, je pense que, et en fortiori maintenant, il y a un vrai contrôle, on l'a pas précisé, mais dans la régulation de que l'on a autour de l'ARP, il y a aussi des dispositifs justement pour interpeller. Si quelqu'un estimait que telle publicité n'était pas conforme, il peut bien sûr interpeller un jury indépendant et statuer sur justement la réalité.
Le mot de la fin pour Hubert Julien Laferrière, député du Rhône.
Oui, on peut toujours dire, est-ce qu'il y a besoin d'une loi ? Moi, je me souviens des débats sur la loi Evin. Aujourd'hui, qui remettra en cause la loi Evin sur l'alcool et le tabac ?
Contre le tabac et l'alcool.
Demain, oui. Il faut peut-être une loi Evin climat ou une loi Mathieu Orphelin, Delphine Bateau sur la publicité. Je dis ça parce que ce sont mes deux collègues qui ont vraiment beaucoup travaillé sur cette proposition-là.
C'était le téléphone sonne avec ce soir nos invités Mathieu Janik, Stéphane Martin et Hubert Julien Laferrière. Merci.